Vous écoutez RTL.
Il est 18h. Et c'est RTL et Soir avec Marc-Olivier Fogiel.
Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2 heures d'infos. Et à la une, ça chauffe au gouvernement et ça n'a rien à voir avec la canicule. Ce matin, la ministre des Armées, Sylvie Goulard, a donc annoncé à la surprise générale son départ. Députée européenne Modem, avant sa nomination il y a un mois, elle entend se défendre librement au moment où la justice enquête sur les assistants parlementaires du parti. Cette démission fragilise la position du garde des Sceaux, François Bayrou, et de sa plus proche, la ministre des Affaires européennes, Marielle de Sarnez. Avec l'exfiltration hier de Richard Ferrand, ce remaniement qu'on nous promettait technique ressemble de plus en plus à un véritable casse-tête pour Emmanuel Macron et son Premier ministre. Alors dans RTL Soir, on va vous raconter cette journée compliquée pour l'exécutif. Et puis on se demandera si le président peut se passer du Modem. Et à 18h30, l'analyse d'Alain Duhamel. RTL Soir, première édition, avec vous Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Les autres titres de l'actualité.
Une nouvelle surprise dans l'affaire Grégory. Marcel et Jacqueline Jacob sont remis en liberté. Ils restent mis en examen pour enlèvement et leur contrôle judiciaire est particulièrement strict. La droite éparpillée façon puzzle. Les groupes sont en train de se former à l'Assemblée. Les Républicains qui ont perdu beaucoup de sièges pourraient aussi exploser.
Et à 18h20, premier invité d'RTL Soir, le député de l'Oise, les Républicains, Éric Woerth.
À suivre également le renseignement mal renseigné. L'auteur de l'attentat manqué sur les Champs-Élysées hier avait voyagé plusieurs fois en Turquie et il était recherché pour terrorisme en Tunisie. Et puis un candidat au bac remercie les gendarmes qui lui ont retiré son permis. Il faut dire qu'ils n'ont pas fait que ça, vous allez l'entendre. La Bourse de Paris, elle termine en baisse de 0,32% à 5293 points. Les courses à Dieppe, il fallait jouer l'As, le 2, le 5, le 13 et le 11.
Et à la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité, coup de chaud sur la France et on va se demander si on peut refuser de travailler en pleine canicule. Puis direction les coulisses de l'actualité, après la mort du journaliste français Stéphane Villeneuve à Mossoul. On va vous emmener en coulisses en Irak au milieu des combats avec l'envoyé spécial de RTL Christophe Decroix. 18h35, elle fut l'héroïne tragique de la présidentielle d'une certaine manière. Emmanuel Macron lui doit son élection. Pénélope Fillon, soupçonnée d'emploi fictif. La journaliste Sylvie Bonnel a enquêté sur cette femme discrète au cœur du scandale. 18h50, RTL Monde avec le portrait de cet étudiant américain mort après avoir été détenu en Corée du Nord. Après 19h, on refera le monde. Bonsoir Patricia Charbonnier.
Bonsoir.
Oui, vous l'avez entendu, un peu de lassitude, il fait chaud et la canicule se poursuit.
Je le ressens bien, oui. Et même le pic de cet épisode caniculaire est prévu pour demain. Déjà cet après-midi, on a battu de nombreux records de chaleur et ce soir, eh bien, cette canicule s'étend maintenant vers le nord et vers les frontières de l'Est. 66 départements sont placés en vigilance orange canicule. Demain, on va encore gagner 1 ou 2 degrés par rapport aux températures d'aujourd'hui, avec par exemple 37 degrés demain après-midi à Paris comme à Toulouse, 35 degrés à Lille, 36 à Bordeaux, 31 à Brest et Marseille. 29 à Toulon, donc toujours un soleil de plomb pour demain avec un ciel un petit peu plus nuageux et instable dans l'après-midi. Quelques averses et une tendance orageuse entre le sud-ouest et les frontières de l'Est.
Merci Patricia, on le sait déjà, c'est une nuit torride qui s'annonce Isabelle.
Oui, au pire sens du terme, le mercure ne va pas descendre en dessous de 20 degrés, on sera même plutôt à 22 ou 23, c'est encore trop pour faire baisser la température dans les maisons et les appartements. Alors dans ces conditions, bien sûr, difficile de trouver le sommeil, mais heureusement Odile Pouget, bonsoir, vous avez
bonsoir.
Quelques astuces à nous proposer.
Eh bien d'abord, préparez votre chambre. Le sommeil est meilleur dans une atmosphère humide. Solution, un récipient d'eau dans la pièce, du linge humide aux fenêtres ou des rideaux même humectés. Ensuite, préparez votre lit. Optez plutôt pour des draps en coton léger que vous pourrez mettre quelques minutes au congélateur. L'effet froid dure une petite demi-heure, le temps de se détendre. Vous pouvez faire le test aussi avec une paire de chaussettes. On peut également glisser sous son oreiller une poche surgelée pour garder la tête fraîche. Il est en effet essentiel pendant le sommeil que la température du cerveau diminue. N'oubliez pas la bouteille d'eau sur la table de nuit. Dîner léger 3 bonnes heures avant, car la digestion augmente la température corporelle. Même si la perspective d'une bière fraîche est tentante, évitez surtout l'alcool le soir. Son effet démultiplie le fractionnement du sommeil. Prenez une douche tiède juste avant de dormir. Cela permet d'humidifier la peau. Enfin, mieux vaut se coucher plus tard que d'habitude. Un sommeil court et efficace est plus réparateur qu'un sommeil long et fractionné.
Les bons conseils d'Odile Pouget, donc, spécialiste santé de RTL.
Et information RTL, il n'y aura pas de restriction de trafic sur l'Île-de-France malgré la demande de la mairie de Paris. La préfecture de police devrait annoncer simplement une réduction de la vitesse et un contournement de la capitale pour les poids lourds. Demain, la région connaîtra sa 3e journée de pollution à l'ozone.
RTL Soir.
Et on en vient donc à l'affaire Grégory, avec cette décision surprise puisque les époux Jacob sont remis en liberté, Isabelle.
Marcel et Jacqueline, grand-oncle et grand-tante de Grégory, étaient en détention provisoire depuis leur mise en examen vendredi, 32 ans après la mort du petit garçon retrouvé ligoté dans la Vologne. Olivier Bois, vous êtes l'envoyé spécial d'RTL à Dijon. Le parquet général avait requis leur maintien en détention, mais finalement, la chambre de l'instruction a suivi la défense.
Oui, c'est une surprise hein, parce qu'au fond, la situation est exactement la même qu'il y a trois jours avec une décision inverse. Le procureur général a d'ailleurs rappelé ce matin qu'il existait de forts soupçons contre le couple Jacob. Elle, vous savez Jacqueline, d'avoir été le corbeau il y a 32 ans en menaçant la famille Villemain. Lui, d'avoir des trous dans son agenda le jour de la mort de Grégory. Et au final, d'être tous les deux directement impliqués dans la mort du petit garçon. Marcel et Jacqueline ont pris la parole ce matin à l'audience pour clamer leur innocence. L'un des avocats, maître Stéphane Giurana, estime que les arguments ont enfin été entendus. Pour lui, depuis le début, il n'y a pas assez de nouveau, pas assez de concret, 32 ans plus tard, pour garder le couple Jacob en prison.
Ils sont fous de joie. Ils ont vécu un cauchemar depuis mercredi. Ça fait maintenant une semaine qu'ils pensent être dans un monde parallèle. Aujourd'hui, ils recouvrent la liberté. Ils sont, comme vous pouvez vous en douter, fous de joie. Ils vous demandent simplement de préserver leur contrôle judiciaire, tout d'abord, et leur intimité.
Un fou de joie, mais cela dit, Olivier, ils ne sont pas blanchis pour autant.
Non, ils restent mis en examen pour enlèvement, séquestration suivie de mort. Ils sont toujours soupçonnés dans la disparition du petit Grégory. Le couple Jacob va pouvoir, c'est vrai, sortir de prison, mais le contrôle judiciaire est extrêmement strict. Ils n'ont pas le droit de rentrer chez eux, ils n'ont pas le droit de vivre ensemble. Ils vont avoir deux adresses différentes qui seront gardées secrètes avec interdiction de se parler. Ils n'ont pas le droit, évidemment, de parler aux journalistes et ils devront pointer régulièrement chez les gendarmes.
Merci beaucoup Olivier Bois donc pour RTL. La politique maintenant, demain à cette heure-ci, on aura normalement un nouveau gouvernement et le remaniement s'annonce plus vaste que prévu. Ce soir, tous les regards d'ailleurs sont tournés vers François Bayrou et Marielle de Sarnez.
Oui, on avait parlé de simples ajustements techniques dans le sillage des législatives, mais le départ de Richard Ferrand puis la démission de la ministre des Armées Sylvie Goulard rebattent les cartes. Richard Ferrand, visé par une enquête préliminaire dans une affaire immobilière, est censé retrouver l'Assemblée nationale et prendre la tête du groupe La République En Marche à la demande d'Emmanuel Macron. Pour Sylvie Goulard, c'est une autre affaire, Benjamin Sportouche.
Eh bien oui, la désormais ex-ministre est éclaboussée, elle, par l'affaire des attachés parlementaires européens qui vise le Modem, son parti de rattachement quand elle était eurodéputée. Une enquête préliminaire a été ouverte le 9 juin dernier et Sylvie Goulard veut pouvoir se défendre. C'est la raison qu'elle a donnée au président et au Premier ministre pour quitter ses fonctions.
Et du coup, d'autres têtes d'affiche pourraient tomber.
Oui, le renoncement de Sylvie Goulard fragilise clairement la position des autres ministres Modem, touchés aussi par la même affaire. Et en premier lieu, François Bayrou, le ministre de la Justice, et qui est toujours officiellement président du parti. Plusieurs cadres de la nouvelle majorité présidentielle En Marche ne sont pas emballés par son maintien, ils le disent, mais a priori, c'est plutôt la tendance. François Bayrou confie qu'il entend rester. Tout ça, c'est du brouhaha. Il n'y a rien de tangible, nous assure-t-il. Et à ce stade, aucun signal contraire venant de l'exécutif. Il a vocation à rester au gouvernement, même dit Édouard Philippe. En revanche, rien n'est acquis pour Marielle de Sarnez, la ministre des Affaires européennes, elle aussi Modem. Elle laisse ouverte l'idée d'un départ pour prendre la tête du groupe Modem à l'Assemblée.
Ce qui paraît clair, c'est qu'on va vers un gouvernement très remanié finalement.
Oui, en effet, avec des portefeuilles d'importance à combler, tout en maintenant un équilibre politique, un vrai casse-tête. Alors le nom de Jean-Pierre Raffarin circule à nouveau par exemple, mais l'ancien Premier ministre, selon nos informations, n'est pas tenté. Une chose est sûre, il faut maintenir la parité, il y aura un peu plus de secrétaires d'État. Tous passeront d'abord par la Haute Autorité pour la transparence, sauf que pour le premier gouvernement Macron, ça n'a pas empêché les bugs et les affaires.
Merci Benjamin Sportouche du service politique de RTL.
Et un autre nuage sur l'horizon du gouvernement. Des perquisitions ont été menées ce matin au siège du groupe Havas et de l'agence Business France. La police enquête sur l'organisation d'un déplacement d'Emmanuel Macron à Las Vegas début 2016, alors qu'il était ministre de l'économie. Une enquête préliminaire est ouverte pour favoritisme.
À l'Assemblée, l'heure est à la formation des groupes et la droite n'a jamais été aussi proche d'une scission.
Les Républicains sont déjà confrontés à une baisse sévère de leurs effectifs. Ils étaient près de 200, ils sont maintenant 113. Et ces 113 députés pourraient donner deux, voire trois groupes, Dominique Tenza.
Oui, ce soir, on peut officiellement prononcer le divorce de la droite, en tout cas au Parlement. Il y aura donc, vous le disiez, au minimum deux groupes. D'un côté, les Républicains, canal historique, appelons-les comme ça, partisans d'une opposition ferme au gouvernement, à Emmanuel Macron. Ils se sont fait élire à droite et entendent bien le rester. C'est le cas du jeune député du Vaucluse, Julien Aubert.
J'ai été élu contre un candidat de La République En Marche. C'est pas pour demain dire que je suis dans la majorité avec La République En Marche. qu'à un moment donné, on a un devoir de clarification par rapport à nos électeurs.
Et puis, il y a une autre droite qui se veut plus constructive, c'est en tout cas comme ça qu'elle s'est autoproclamée, une vingtaine de députés prêts à voter la confiance, à travailler avec la nouvelle majorité parmi ces frondeurs républicains lors de la Rodière.
Bon, ben voilà, on va vers deux groupes, c'est peut-être deux tendances qui existaient déjà avant, et ça clarifie les choses finalement, à la fois dans la façon de travailler avec le Premier ministre qui est droite, ça clarifie aussi les choses vis-à-vis de nos électeurs.
Et puis, comme si cela ne suffisait pas, un troisième groupe pourrait voir le jour, pas totalement constructif, mais pas vraiment LR non plus. Ajoutez à cela les querelles d'ego, on peut dire que ce soir, la reconstruction de la droite, déjà nettement diminuée, est plutôt mal engagée.
Merci beaucoup Dominique Tenza, on en reparle dans un instant avec Éric Woerth, invité d'RTL Soir.
Un début de quinquennat compliqué politiquement pour Emmanuel Macron, mais très favorable économiquement. Dans sa dernière note de conjoncture, l'INSEE table désormais sur une croissance d'1,6% cette année, autrement dit un demi-point de plus que l'an dernier, et une progression toute proche de la moyenne européenne. Le tourisme et l'export qui plombaient l'activité se redressent nettement et le chômage devrait continuer à baisser.
RTL Soir, 18h10.
On va marquer une pause et dans un instant, l'attentat manqué hier des Champs-Élysées. Le suspect avait tout pour inquiéter.
Il est 18h12, RTL Soir avec Marc-Olivier Fogiel et la suite du journal d'Isabelle Choquet.
Et cette question dans l'actualité, y a-t-il eu une faille dans le renseignement? En tout cas, au lendemain de l'attentat manqué des Champs-Élysées, on découvre un suspect particulièrement inquiétant.
On sait depuis hier qu'Adam Jaziri était fiché S depuis 2 ans pour islamisme radical. Malgré cela, il possédait un permis de port d'armes. Bonsoir Thomas Proutot.
Bonsoir.
Ça ne s'arrête pas là. Hein. Les dernières informations sur ce jeune homme de 31 ans renforcent l'impression d'un ratage.
En effet, d'autant que deux nouveaux éléments sont apparus dans la journée. D'abord, Adam Jaziri avait fait l'objet d'un signalement de la Tunisie en 2013. Au cours d'un séjour sur place, le Français avait été repéré en compagnie d'islamistes radicaux. En 2016, ensuite, Jaziri avait multiplié les déplacements en Turquie, officiellement pour un petit commerce d'or monté avec sa famille. Des voyages forcément connus des policiers puisque l'homme était fiché S, vous le disiez. Or, la Turquie, c'est aussi la porte d'entrée vers les groupes radicaux syriens. À cela, enfin, s'ajoute la visite de deux gendarmes récemment à son club de tir pour des vérifications. Une procédure rarissime. Bref, tout démontre que l'homme était particulièrement signalé et surveillé. D'ailleurs, si son autorisation de détention d'armes avait été renouvelée en février dernier, c'était dans le but de ne pas l'alerter, selon nos informations. En clair, les services spécialisés auraient gardé Jaziri à l'œil dans l'espoir de faire tomber de plus gros poissons. D'où cette question ce soir. Comment a-t-il pu échapper à la vigilance des policiers et aller jusqu'aux Champs-Élysées dans une voiture bourrée d'armes et de bonbonnes de gaz?
Information de Thomas Proutot pour RTL.
Et notez que 4 membres de la famille d'Adam Jaziri sont toujours en garde à vue. Stéphane Villeneuve va être fait chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume. C'est rarissime pour un journaliste mort en reportage. Le reporter d'Envoyé spécial a été tué par l'explosion d'une mine à Mossoul, en Irak.
On sera en Irak tout à l'heure dans les coulisses de l'actualité avec Christophe Decroix qui nous attend là-bas. Et on va terminer avec l'histoire du jour, Isabelle, l'histoire d'un jeune homme trop pressé et d'une gendarmette trop sympa.
Le jeune homme pressé passait son bac jeudi dernier et il a été contrôlé à 125 km/h au lieu de 80 sur une petite route d'Indre-et-Loire. Résultat, eh bien, retrait immédiat du permis de conduire. Mais face à son désarroi, à sa détresse, les gendarmes se sont montrés compréhensifs. Ils ont donc décidé de le conduire eux-mêmes au centre d'examen. C'est Sophie qui l'a emmené.
On est parti derrière lui, on l'a arrêté à l'engenerie. Et là, le jeune me dit, je suis en retard à mon oral de bac. J'ai dit, montez dans la voiture, prenez toutes vos affaires, fermez votre voiture à clé. On a récupéré le permis, la carte grise, et monté dans le véhicule. Et puis, on a fait au plus vite pour rejoindre le lycée Vaucanson.
Il a pu passer son épreuve dans des conditions normales?
Normal, je sais pas, parce qu'il était quand même un peu stressé, le pauvre jeune. J'ai demandé s'il avait bien travaillé l'année, il m'avait dit que c'était assez positif, donc fallait d'autant plus l'amener qu'il réussisse au moins ça. Rater une année sur une bêtise, c'était idiot, quoi.
Sophie, gendarmette sympa au micro RTL de Christian Panvert.
Et la gendarmerie d'Indre-et-Loire a reçu une lettre de remerciement des parents du jeune candidat. C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on est remercié après un retrait de permis.
À tout à l'heure, vous revenez à 18h30, Isabelle, les clés pour bien comprendre l'actualité.